Le monde d'un papillon n'est pas celui d'un poisson-chat, qui n'est pas non plus celui d'un humain, d'un palmier, d'une sarbacane ou de la race d'esprit qui protège les singes. Car chacun de ces mondes est à la fois la condition et le résultat de l'actualisation de fonctions physiques singulières que les autres formes d'existence ne possèdent pas. Philippe Descola est ce soir notre invité à l'occasion de son gros livre intitulé « Les formes du visible ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera « Les paradis perdus » de Christophe et Arnaud. Nous sommes tous à la recherche des paradis perdus, mais peut-être vous encore plus, particulièrement Philippe Descola. Je crois que dès que vous êtes arrivé à l'âge adulte, vous avez essayé de retrouver des paradis peut-être perdus, en tout cas qui existaient encore un petit peu. Vous êtes célèbre pour vos hachoirs, chez qui vous avez vécu et qui vous ont enseigné beaucoup de choses dans la vie, et qui vivent en Amazonie. Mais auparavant, il y avait eu une autre expérience, un peu compliquée, un peu difficile et un peu douloureuse. C'était au sud-est du Chiapas, je crois.
Oui, c'est le premier terrain, comme on dit, pour les anthropologues. J'étais parti parce que je m'intéressais au changement de milieu, au fond. Et les Indiens Tseltal, parmi lesquels je m'étais installé, venaient de subir un grand bouleversement, puisqu'ils venaient des hautes terres du Chiapas. Ils avaient été chassés, au fond, par les grands propriétaires terriens. Ils étaient descendus dans la forêt Lacandone, dans un milieu complètement différent, où ils essayaient de refaire une vie, et notamment de refaire une vie telle qu'ils l'avaient connue dans les villages des hautes terres. C'était très difficile, parce que, sans faire de déterminisme environnemental, la forêt, c'est là une forêt tropicale, hein, très dense, c'est pas du tout le même milieu que les hauts plateaux, enfin les plateaux en tout cas du Chiapas, et ils étaient malheureux dans ce nouveau milieu, où ils étaient pourtant indépendants, d'autant que, pas très loin, les grands propriétaires terriens avaient gagné du terrain et avaient créé des grandes haciendas de bétail. Et en quelque sorte, ce sentiment d'une vie qui n'était pas épanouie, que je ressentais à leur contact, m'avait incité à ne pas poursuivre de ce terrain. J'admire beaucoup, j'ai des amis anthropologues qui font des terrains dans des conditions très difficiles, de populations déplacées, dans des camps, des choses comme ça. J'admire beaucoup le courage qu'il faut pour le faire, parce que partager le bonheur des gens, et quelquefois aussi la violence, le rire, l'amour, la vengeance, etc., comme je l'ai fait chez les Achuar, c'est une chose. Partager le malheur, c'est beaucoup plus difficile.
Mais avant d'aller vers les Achuar, vous êtes installé pendant extrêmement longtemps, Philippe Descola, vous avez beaucoup bourlingué. Et vous dites, à l'intérieur d'un livre d'entretien qui est paru l'an dernier, que à l'intérieur des contrées que vous avez visitées, vous avez été peu intéressé et vous avez eu peu envie de vous fixer dans des endroits où la religion avait marqué de son sceau la nature, le paysage et les hommes. Pourquoi ?
Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup bourlingué dans des pays musulmans depuis l'âge de 17 ans, donc au Proche et au Moyen-Orient. J'étais fasciné par la beauté des villes, par l'architecture, bien sûr, par la profondeur historique et par aussi, la plupart du temps, par la grande générosité de l'accueil qu'on me faisait. Et en même temps, je pressentais que cet univers était très scindé entre d'un côté, même en Turquie, qui était un État encore très laïque à l'époque, entre d'un côté la vie masculine extérieure, la vie des cafés, la vie publique en quelque sorte, et puis le monde des femmes qui était sinon cloîtré, en tout cas où il existait une forme de ségrégation. Et ce sentiment, je l'ai ressenti par contraste rétrospectivement lorsque je suis allé en Amazonie, où j'ai découvert un monde sans transcendance. Et au fond, c'est une des grandes découvertes de ma vie, qu'on pouvait vivre sans transcendance, comme lorsqu'on est un Européen qui, dans mon cas, vient d'une famille catholique. La présence de Dieu est constante, même pour les athées, au fond, d'une certaine façon. Elle est un arrière-fond. Et cette idée de la transcendance, au fond, qui fait qu'il y a quelque chose qui est supérieur et extérieur à nous, que ce soit Dieu ou la société ou certaines valeurs qu'il faut respecter, va de soi. Et puis j'arrive chez des gens pour qui il n'y a pas de transcendance, parce qu'il n'y a pas, non seulement il n'y a pas de Dieu, mais au fond le dialogue avec l'invisible est constant, quotidien. On ne se réfère pas à des grands principes. Et ça, c'était vraiment une grande découverte, voilà, sur le terrain.
Mais est-ce que cela ne signifiait pas, et ne signifie pas toujours, pour les Achuar, que la nature était peut-être, et peut-être toujours encore, l'incarnation du transcendantal?
Ah, sûrement pas, c'est bien l'inverse justement.
Ça veut dire que c'est la communication entre les hommes et la nature qui se fait de manière égalitaire.
Parce que la nature, c'est ce concept que nous utilisons un peu à tort et à travers, parce qu'il s'y prête, il permet de désigner énormément de choses différentes, c'est toujours une hypostase, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été transformé en concept, ça vient synthétiser au fond de très nombreuses choses qu'on en transforme en un concept, et ce concept il est précisément transcendant. Le Spinoza disait Dieu ou la nature, c'est la même chose d'une certaine façon. Or ce concept de nature n'existe pas chez les Atchouars. Ce qui importe, c'est le dialogue quotidien dans les rêves ou par les champs magiques avec des esprits, avec des animaux, avec des plantes qui sont dotées d'une âme, etc. Et donc il n'y a pas de déférence à un grand tout en quelque sorte.
Ils n'utilisent pas le mot nature.
Ah, surtout
chez les
pas. Non, bien sûr que non seulement les Atchouars ne l'utilisent pas, mais c'est un terme dont il est très difficile de trouver des équivalents dans aucune autre langue que les langues européennes.
Donc ça veut dire que le concept de nature est un concept délibérément, purement, historiquement occidental.
Tout à fait. C'est un concept occidental. On peut trouver des choses, par exemple en chinois, en japonais, il y a des concepts qui ressemblent un peu au concept initial de la phusis en grec, qui est
communion.
Non, c'est plutôt le principe qui permet à un être d'être ce qu'il est. Hein, c'est-à-dire, on dit, c'est la nature de cette plante, par exemple, guérir tel type de maladie. Donc c'est ce qui lui est propre. Et on trouve une idée de ce type-là dans des traditions, en tout cas, où précisément on s'est beaucoup intéressé aux propriétés physiques et chimiques et biologiques des plantes, par exemple. Mais un terme aussi englobant que la nature, telle qu'on a pris l'habitude de s'en servir depuis, précisément depuis Spinoza, depuis Descartes, etc., ça n'existe nulle part ailleurs. Et donc, lorsque nous parlons de la nature, ça me frappe beaucoup lorsque j'écoute les échos du congrès de l'UICN à Marseille en ce moment. Au fond, on en parle toujours d'une façon un peu utilitariste, en disant, bon, la biodiversité, c'est quelque chose de très important, parce que la nature nous rend des services. Donc on continue à traiter, au fond, cet ensemble comme une sorte de sujet transcendantal, précisément, avec lequel, au fond, on a des relations d'esquive, de réciprocité, etc. Mais en tant que tel, ça n'a guère de sens pour la plupart des autres populations dans le monde, la plupart des autres cultures, sauf celles, évidemment, qui ont été, au fond, atteintes par la modernité et par l'extension de ce terme ailleurs qu'en Europe.
Mais par rapport à ce congrès qui se tient à Marseille et qui réunit les plus grands spécialistes de ce qu'on appelle, entre guillemets, devant vous, cher professeur, la biodiversité, ne consiste-t-il pas à finalement accumuler des faits, des observations qui, hélas, vont toutes dans le même sens, la détérioration de la planète, mais archiver des faits constatés n'est pas agir, manifestement. Donc, est-ce que les hommes continuent-ils pas même en considérant les dommages que nous, les hommes, nous faisons à la nature, finalement continuent à déconsidérer cette même nature, en ne faisant rien?
Oui, bien sûr. Mais ce qui compte dans le cas présent, effectivement, c'est de, vous l'avez dit, c'est d'archiver, c'est de comptabiliser, c'est des choses qui sont importantes, mais en essayant d'éviter une perspective utilitariste, précisément. C'est-à-dire que la protection de la nature, au fond, est un impératif, parce qu'elle va permettre aux humains de mener une vie plus épanouie.
Or, c'est d'abord les humains, quoi, et après la nature.
C'est très anthropocentré, alors que la diversité, la biodiversité, mais toutes les formes de diversité devraient être une valeur cardinale, une valeur normative en soi, qui n'est pas fondée sur des principes utilitaires. C'est peut-être même la seule valeur sur laquelle beaucoup de peuples dans le monde pourraient s'accorder.
Y compris en Occident, du temps de la civilisation paysanne, qui n'est pas si lointaine.
Oui, mais la civilisation paysanne, effectivement, était une des formes ou des manifestations d'un certain type de rapport avec des plantes et les animaux qui s'est peu à peu effiloché. Mais il en existe bien d'autres. Et quand je parle de diversité, c'est aussi la diversité linguistique. Je suis aussi atterré par la disparition des langues, par exemple, de très nombreuses langues. Quand on pense qu'en Amazonie, il y a maintenant encore à peu près 600 langues, mais il y en avait le double au 19e siècle. Même chose dans d'autres régions du monde, en Nouvelle-Guinée, par exemple. Donc les langues, ce sont des trésors, c'est des façons d'architecturer le monde dont chacune est un trésor. On dit cette fameuse formule, quand un sage meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle, mais c'est encore plus vrai d'une langue. Le trésor d'une langue est inestimable. C'est la diversité de ce qu'on appelle traditionnellement les cultures, c'est-à-dire des formes de concevoir et de se relier au monde. Tout ce principe de la diversité est fondamental, et je pense que je comprends bien sûr qu'on puisse essayer de traiter ça de façon utilitariste en disant oui, si on supprime avec la disparition de nombreuses espèces, les possibilités de détecter dans ces espèces disparues des molécules qui pourraient nous servir pour faire des médicaments, des choses comme ça, est effacée. Mais
c'est d'abord l'émerveillement de la beauté du monde.
Oui, exactement, exactement. Voilà.
Mais comment vous, Philippe Descola, quand vous êtes arrivé après bien des complications et des vicissitudes dans votre domaine d'élection chez les Achoirs en Amazonie, comment, avec votre femme, parce que je pense que c'était important que vous soyez deux pour pouvoir vous défaire de tout ce qui vous habillait mentalement, psychiquement et pas seulement physiquement, de vos habitudes occidentales, comment vous avez détricoté cette opposition entre nature et culture? Comment vous avez compris que le monde vivant existait autant que le monde humain?
Oh ben, comme toute immersion ethnographique, c'est une opération de longue haleine. C'est-à-dire qu'on d'abord, il faut apprendre une langue, comprendre ce que les gens disent, ça prend du temps, écouter leurs conversations et se rendre compte finalement que ce que moi j'étais venu étudier, à savoir ce que j'appelais la socialisation de la nature, la façon dont précisément une nature extérieure était investie de symbolisme social par la technique et par les mythes, etc. Ça ne se présentait pas du tout comme cela, puisque ce que j'appelais la nature, c'était une multiplicité d'êtres avec lequel les gens entretenaient des rapports de partenaires sociaux. Donc ça a pris du temps, mais c'est surtout au retour que le contraste est devenu manifeste. C'est surtout au retour que je me suis rendu compte que cette façon que j'avais de penser en arrivant et qui s'était peu à peu dissipée continuait tranquillement son cours, alors que moi j'étais parti dans une autre direction pendant quelques années, et donc j'ai eu une attitude quasiment de missionnaire depuis, c'est-à-dire d'essayer de faire partager cet émerveillement devant la prise de conscience de la diversité du monde et de la diversité des interactions qu'on peut mener avec tous les éléments du monde, et pas simplement la sacralisation en fond d'une espèce d'entité un peu abstraite qu'on appelle la nature, et qui est au fondement des politiques de protection aussi. C'est à la fois parce que la nature est vue comme une ressource qu'on l'exploite de façon frénétique, et c'est parce qu'on l'exploite de façon frénétique qu'on cherche ensuite à la protéger, mais toujours comme une relative abstraction. C'est je répète souvent que l'Amazonie n'est pas un univers sauvage qu'il faut protéger parce qu'il est sauvage, mais qu'il faut protéger parce que c'est un milieu de vie qui a été progressivement façonné par les Amérindiens en cours des millénaires du fait de leur pratique culturelle, et que de ce point de vue-là, effacer l'Amazonie, ou en effacer de grandes portions, c'est exactement comme de bombarder Notre-Dame, c'est la même chose. C'est un équivalent de ce type-là, et c'est encore manifeste. puisqu'en ce moment, on discute à la Cour suprême du Brésil d'une loi qui va éventuellement priver les Amérindiens des derniers droits qui leur restaient sur leur terre. Et donc c'est quelque chose qui est dramatique, et il y a de grandes manifestations des autochtones au Brésil. Pour la première fois, à peu près toutes les populations autochtones du Brésil se sont mobilisées à Brasilia pour protester contre cette loi, et voilà, c'est absolument désolant. Donc le combat continue.
Votre travail d'anthropologue, Philippe Descola, vous mène à analyser les mécanismes de dépossession de notre rapport au monde. Vous le faites de manière symbolique, artistique et invisible dans votre dernier ouvrage sur lequel nous allons revenir. Mais il y a aussi une analyse assez féroce et je trouve très convaincante de ce qu'on appelle le capitalisme qui a commencé à exister depuis le 19e siècle. Et qui broie l'idée même de civilisation, l'idée même de diversité du monde, l'idée même du vivant. Est-ce que ça ne serait pas là la racine? Ce qui se passe en ce moment même au Brésil se passe sous Bolsonaro, mais est-ce que ça se passe pas aussi sous toutes les latitudes, peut-être à moins fort bruit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la disparition de l'idée même d'un monde commun?
Alors, pour dire les choses avec une formule qui est peut-être un peu un raccourci, je dirais que le capitalisme, notamment le capitalisme industriel et post-industriel, c'est la forme exacerbée de ce que j'appelle le naturalisme, c'est-à-dire précisément cette séparation qui a été progressivement conceptualisée par des grands esprits européens, avec d'ailleurs toutes sortes d'effets intéressants, notamment sur le plan de l'extraordinaire progrès des sciences que cette nouvelle cosmologie a rendu possible. Et c'est donc quelque chose qui s'est produit en effet à partir de la fin du 19e siècle. C'est le début de ce que traditionnellement on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire, et il est intéressant que les créateurs du concept, et en particulier Crutzen, aient mentionné le perfectionnement de la machine à vapeur de Watt comme étant le début de l'anthropocène. C'est-à-dire que c'est très lié au début du capitalisme industriel, à la transformation des conditions de vie des gens qui produisaient en masse des biens nouveaux, fondé ce développement aussi, on le sait beaucoup mieux maintenant, sur le colonialisme, c'est-à-dire sur l'utilisation de grands espaces qui avaient été spoliés, notamment dans les Amériques, en Amérique du Nord, sur l'esclavage, c'est-à-dire au fond l'anthropocène, c'est pas les humains qui détruisent la planète, c'est un système qui détruit la planète, hein, parce que
des humains écrasent d'autres humains
pour transformer ce qu'on appelle la nature en ressources et acquérir une puissance et une richesse sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Donc effectivement, c'est le développement de ce système qui se présente maintenant sous des dehors plus aimables avec le néolibéralisme et la grande affaire des deux derniers siècles et le siècle dans lequel nous sommes entrés, du fait de la conscience que nous avons de la destruction de la biodiversité d'un côté et des effets dramatiques du réchauffement climatique de l'autre, est une formidable incitation à transformer notre monde pour sortir de cette période, sans ignorer par ailleurs certaines en particulier je pense au développement des sciences, je suis un scientifique après tout, qu'il a rendu possible aussi.
Alors votre travail, Philippe Descola, est phénoménal à bien des égards, sur le plan poétique, sur le plan symbolique, sur le plan anthropologique, mais aussi sur le plan philosophique. Je vous propose d'écouter la voix de Michel Foucault, que vous citez d'ailleurs dans cet ouvrage qui paraît ces jours-ci, qui va parler d'une des obsessions qui tisse votre travail depuis très très longtemps dans ces différents champs et disciplines. Il va parler de l'homme qui n'est peut-être pas le centre du monde. C'est une Archivina de 1973.
dans la civilisation du Moyen-Âge, de la Renaissance, le monde existait. C'est-à-dire qu'on se représentait quelque chose qui était une sorte d'espace fermé dans lequel il y avait le soleil, la terre, les astres, les planètes, etc. Ce monde, maintenant, au fond, il a cessé d'exister. Et nous savons simplement qu'il existe un certain nombre de relations que l'on peut calculer mathématiquement, et ce sont ces relations, c'est la trame, le réseau de ces relations qui constitue ce qu'on appelle l'univers. Eh bien, cette substitution de l'univers au monde me paraît avoir un répondant dans le domaine dont nous parlions, c'est-à-dire dans l'homme. L'homme a existé, comme autrefois existait le monde, et maintenant, tout comme le monde s'est dissipé dans les relations d'univers, de même, l'homme est en train de se dissiper dans un ensemble de rapports formels.
Alors l'homme est-il en train de se dissiper ? Cette archive date de 1973, on a l'impression que c'est peut-être l'homme qui est affolé par l'idée même de sa propre extinction, ce que nous vivons.
Alors, on a juste un mot pour dire que Michel Foucault était une stimulation intellectuelle pour moi considérable. Et ce qu'il définit là, c'est le passage du monde clos à l'univers infini, comme disait Coiré. L'importance que tout d'un coup acquiert l'homme. L'individu et l'une des choses que j'ai voulu faire dans le livre que vous évoquiez tout à l'heure, c'est de montrer comment au fond cette présence de l'homme, de l'humain est devenue visible dans les images avant même qu'elle soit thématisée dans des discours théoriques, philosophiques, comme ça a été fait un peu plus tard au XVIIe siècle. Dès le XVe siècle, en effet, on voit une obsession pour dépeindre non plus des types ou des symboles, des prélats, des souverains, des certains types d'artisans ou de paysans, etc., mais pour dépeindre des individus, et des individus avec toute la profondeur de leur intériorité, avec des regards expressifs, etc., etc. Et donc cette irruption de l'homme, elle apparaît, à mon sens, de façon très nette dans la peinture flamande du XVe siècle, chez des gens comme Robert Campin ou Van Eyck, et elle est accompagnée d'une obsession pour les détails du monde aussi. Et donc la nature, au fond, apparaît soudain, non plus...
Les détails du monde qui ne sont pas forcément des paysages illustrant la beauté des visages peints.
Pas nécessairement, parce que à la différence des descriptions du monde au Moyen Âge, qui sont encore des cosmologies, qui sont des mondes comme Michel Foucault les définissait, c'est-à-dire structurés par une hiérarchie entre les êtres, entre les humains, les anges, Dieu, les animaux, les plantes, etc. On aperçoit des mondes qui sont en continuité physique, c'est-à-dire même avant l'invention de la perspective, la manière de dépeindre la nature dans ses moindres détails, de dépeindre des nuages, des herbes, des plantes reconnaissables, etc., voulait émuler au fond la vision humaine d'un monde qui était déjà au fond soumis au regard des humains. Et donc ce mouvement qui a dans les images a précédé la thématisation par les textes s'est poursuivi, et il me semble précisément que ce qui s'est passé dans les images, et c'est pour ça que je me suis intéressé aux images, c'est que la décomposition de cet univers avec la peinture moderne et à partir des cubistes a précédé la décomposition de ce monde naturaliste, sans qu'on sache encore très bien dans quelle direction il va, mais il me semble que les imagiers, comme je les appelle, hein, parce que ce sont On les appelle des artistes en Europe ou en Amérique du Nord, mais dans le reste, dans d'autres régions du monde, ce sont pas des artistes au sens classique du terme. Ce sont des gens qui rendent visible l'invisible. Et ces imagiers ont pressenti, au fond, dans leurs images, de même qu'ils avaient pressenti ce que j'ai appelé le naturalisme bien avant que des textes y soient consacrés, ils ont pressenti un bouleversement, au fond, du monde naturaliste, dont on ne sait pas encore exactement ce qu'il va donner, mais dont il voit qu'il est, dont on voit qu'il est beaucoup plus marqué par l'hybridation, par des superpositions, des mélanges de d'inférences différentes quant au monde, etc. Et ça se voit dans les images. Et je pense que ces deux événements que sont le réchauffement global et l'érosion de la biodiversité nous ont rendu conscients de cette hybridation entre les humains et le monde, le fait que nous sommes devenus une sorte de force géologique transformant le système de la Terre, etc. Toutes ces choses-là ont été pressenties par les imagiers avant qu'on en prenne conscience maintenant et qu'on essaye de le penser et d'en faire peut-être de lui donner une traduction politique.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Philippe Descola, Chico Malandro de Anna Firmino.
Flor ñamu, boqueña malandro chi, ya entre bucheo. borniamo, pokenya malandroshi, nyankre buche unyatos, pokenya kuzinyamse, pokenya florniamo, pokenya malandroshi, nyankre buche unyatos, pokenya kuzinyamse, pokenya florniamo, pokenya malandroshi, nyankre buche unyatos,
pokenya. Alors, lisible, visible. Quand j'étais plus jeune, je faisais une grande opposition entre les deux. Ça me servait à critiquer la réduction des images à un message ou à une iconographie, alors à un thème qui a été traité dans la littérature, et hop, on le retrouve chez Botticelli. Donc le mot lisible m'énervait, sauf que j'avais pas vu bien que dans lisible, il y a le ible comme dans visible. C'est la terminaison Barkeit en allemand. Ça veut dire que c'est possiblement, il y a une possibilité. Ce qui est lisible, ce n'est pas ce qui est lu, c'est ce qui est possiblement à lire.
Nous venons d'entendre la voix de Georges Didier Huberman, qui est un philosophe, qui est spécialiste des images, qui a beaucoup travaillé, notamment sur des images, les rares images qui sont restées des Sonderkommando pendant la Seconde Guerre mondiale, de ces personnes qui ont été contraintes par les nazis de prendre, d'aller achever leurs camarades et qui ont pu justement transmettre l'horreur de l'horreur, l'innommable, grâce à ces photographies. Vous, Philippe Descola, vous changez de discipline tout en vous appuyant sur la vôtre, l'anthropologie. Vous faites non pas une nouvelle histoire de l'esthétique, mais une nouvelle histoire de notre regard d'occidental sur ce que nous n'avons pas compris, de ce que nous pouvons voir, de ce qui nous est permis de voir.
Je me suis intéressé à la figuration parce que il n'y a pas d'autre moyen qu'en regardant des images de savoir ce que d'autres voient, que nous voient.
Et ça, comme par exemple vos hachoirs en Amazonie.
Comme par exemple les hachoirs en Amazonie.
Ils voient pas la même chose que nous.
En tout cas, ils n'ont pas des images identiques aux nôtres. Ils ont très très peu d'images. Ce sont des graphèmes. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils transforment les corps en images. Et c'est une, bien sûr, nous l'avons fait aussi, nous le faisons, mais dans des systèmes hautement ritualisés, de mise en scène, dans à l'opéra, dans la danse, etc., etc. Ils le font, d'autres populations en Amazonie.
C'est-à-dire qu'ils voient pas le monde comme nous.
Ils voient certains éléments du monde, bien sûr qu'ils voient le monde comme nous, puisqu'ils ont le même appareil perceptif que nous, mais dans ce monde, il y a des choses qui accrochent leur attention, de même que nous, il y a des choses qui accrochent notre attention, en sorte que, comme il n'y a pas coïncidence entre les choses qui accrochent l'attention des hachoirs et la nôtre, en fait, les mondes sont un peu différents. Et c'est ces différences qui m'intéressent depuis longtemps, c'est-à-dire, au fond, ce que ce que les gens vont sélectionner ou distinguer dans la trame continue des perceptions du monde et dans leur imaginaire pour lui donner un relief. Et ce relief, bien sûr, il est présent dans le discours. Et c'est pour ça que je me suis intéressé, dans un premier temps, au discours tel que les anthropologues y ont accès, c'est-à-dire au discours rapporté par des anthropologues, par d'autres ethnologues, mais aussi à tous les textes qui ont été produits sur la façon dont des gens, au fond, perçoivent la réalité. Mais je me suis dit, ça serait intéressant aussi de voir comment cela se traduit dans les images. Qu'est-ce qui, dans les images, accroche l'attention des uns et des autres? Qu'est-ce qui, dans les images, n'est pas montre que des choses ne sont pas vues? Et donc, je me suis lancé dans cette entreprise comparative de la façon dont d'autres que nous voit le monde.
Ce qui est la conséquence de votre décentrement sensoriel total à la suite des années que vous avez passées en Amazonie.
Oui, c'est cela. C'est-à-dire que de la même façon que j'essaie d'introduire ce qu'on pourrait appeler du pluralisme ontologique au fond dans la pensée, dans la philosophie, dans l'anthropologie, c'est-à-dire que les grandes catégories au moyen desquelles nous pensons le monde et que j'avais intériorisé comme un jeune philosophe avant de devenir anthropologue, ces catégories, je me suis rendu compte qu'elles n'avaient rien d'universel. De la même façon, l'actualisation du monde dans des images telles qu'on peut l'observer, loin de devoir être traité comme on l'a fait parfois, comme des sortes de tentatives maladroites, au fond, d'aboutir à une vision réaliste telle que la peinture moderne l'a pratiquée, sont vraiment des façons alternatives de montrer des choses. Et les images sont dans ce sens extrêmement non seulement annonciatrices de transformation, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en même temps très révélatrices.
C'est-à-dire que les imagiers ou les artistes, ça dépend de quelle ère géographique nous parlons, ont toujours été en quelque sorte des chamans, des gens qui pressentent ce qui n'existe pas encore.
Dans certains cas, oui. Alors, dans des circonstances un peu spéciales aussi, faut-il le dire. Je pense que c'est une question d'une infinie complexité, mais je pense qu'ils le sont peut-être dans les cas de pressentiment, les frères voyants en somme. Hein, pourquoi c'est les frères voyants? Parce qu'ils sont aussi collectivité, et c'est pour ça, c'est comme ça aussi qu'on a analysé le surgissement de l'art contemporain. Ils sont dans des collectivités qui sont en émulation à la fois les uns avec les autres, soumis à un grand brassage d'images par ailleurs du fait des pillages coloniaux qui avaient amené en Europe des images d'un peu partout dans le monde, et cette forme collective en somme de voir et de produire des images a produit des déclics. Des transformations soudaines dans les façons de figurer, dans l'organisation même de l'espace pictural, dans le fait pour les cubistes, c'est une chose complètement extraordinaire, de passer d'un point de vue unique à un point de vue multiple sur les choses. L'une des caractéristiques de la figuration que j'appelle naturaliste, c'est que précisément, après le Moyen-Âge, elle, et évidemment la perspective est la forme la plus achevée de cela, elle se concentre sur non seulement une émulation de la vision humaine, mais une émulation de la vision humaine vue d'un seul point de vue. Or, la plupart des autres formes de figuration ailleurs dans le monde s'intéressent à présenter ce qu'elle montre sous différents points de vue, de façon à être plus complet, en somme, dans l'actualisation des qualités de ce qu'elle montre. Donc ce qu'on appelle le réalisme, en fait, n'est pas très réaliste, parce que sur le plan conceptuel, il vaut mieux présenter, je ne sais pas moi, un animal dont on va déplier les deux faces de façon à le représenter complètement, ou même le transformer en une sorte d'éclaté, comme le font certaines sociétés de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, en dépliant en somme tous les éléments de son corps pour mieux le représenter, que de présenter comme nous le voyons nous, c'est-à-dire avec d'un seul côté, de façon toujours partielle, bien sûr. Donc ce travail de transformation que les peintres cubistes ont fait a fait revenir d'une certaine façon le naturalisme dans la position commune d'avoir à figurer un très grand nombre de qualités des choses et non plus à émuler la vision humaine, même la photographie, qu'on dit évidemment mimétique, iconique, en transformant au fond les techniques par rapport aux premiers daguerréotypes, qui les premiers daguerréotypes imitaient d'une certaine façon la peinture flamande. Ils étaient très naturalistes, et la photographie aussi s'est transformée au fil du temps. Et donc ce grand mouvement a introduit précisément de la diversité, ou a reflété la diversité dans les façons de voir le monde, qui avait été un peu appauvrie indépendamment.
Mais par exemple, Philippe Descola, si je prends une plante, puisque oui. Chez les Achoirs, on parle aux plantes, on chante aux plantes, on s'occupe d'elles, et vous l'avez merveilleusement décrit. Si on prend une plante, la sauge par exemple, et si vous mettez une sauge avec une feuille de papier à un occidental comme vous et à un achoir, un de vos amis, est-ce qu'il représente la même plante ?
Ah, mais il représente pas la plante, parce que ça n'a guère de sens de représenter la plante de façon mimétique. Ce qu'il fera peut-être, c'est qu'il...
L'esprit de la plante, alors.
Oui, éventuellement l'esprit de la plante, mais l'esprit de la plante, au fond, est difficile à représenter, parce qu'il est... Il prend des incarnations différentes. Il va prendre des figures différentes. Et donc, ce que l'on fait, c'est pour ça que dans ce que j'appelle l'animisme, c'est-à-dire dans ce grand archipel dans lequel les humains et les non-humains peuvent communiquer parce qu'ils ont une intériorité commune, dans ce monde-là, il est plus facile de figurer par la voix, par le son. Donc, vous parliez tout à l'heure du chaman. Ce que fait le chaman lors d'une cure, par exemple, c'est au lieu de figurer, ça peut se faire, des esprits qui seront nécessairement imparfaitement présents, il va figurer leur présence par la voix. C'est-à-dire en les faisant, en les rendant sensibles, lorsqu'ils s'adressent à eux. Donc il va parler en disant « je suis un tel, je fais ceci, je fais cela », donc comme chaman, et puis tout d'un coup il va changer de voix, et puis c'est un esprit, un de ces esprits auxiliaires, qui sont en conclave, en quelque sorte, dans son corps, qu'il va mobiliser pour faire intervenir, pour traiter un malade. De la même façon, s'il veut véritablement se transformer, en devenir une sorte de citoyen d'honneur du monde animal, parce que en Amazonie, l'un des problèmes de l'animisme en général et de beaucoup de sociétés, c'est que, comme je disais en citant un chaman inuit, le grand problème de l'humanité, c'est que l'essentiel de ce que nous mangeons sont des âmes. C'est pourquoi ? Parce qu'on mange des animaux qui ont une âme, et donc il faut désubjectiver les animaux. Mais ça marche pas vraiment bien, et donc toutes les maladies sont des vengeances des esprits animaux. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on va essayer lorsqu'on est un chaman et qu'on va essayer de guérir les gens de sa communauté humaine ? Eh ben on va essayer de devenir un citoyen d'honneur d'une espèce animale, et pour cela on va prendre l'apparence d'un animal. Mais comme les animaux se voient comme des humains, eh bien on va mettre sur son corps les signes qui permettent aux animaux de se distinguer entre eux. Voilà, donc ça, on produit une image à ce moment-là, mais c'est pas du tout une image mimétique au sens où nous les entendons, nous.
Ben c'est ce que vous expliquez au cours de votre livre merveilleux, mais dernière question, est-ce que quelqu'un qui n'est pas artiste ni imagier et qui est occidental, arrivera-t-il à communiquer avec le monde vivant qui n'est pas humain, ou est-ce qu'il en est coupé à tout jamais ?
Je pense que d'abord il y a tous les poètes, ils parviennent fort bien, et puis un modeste ethnographe, et donc ce que moi par exemple, on arrive à comprendre ce que les gens font lorsqu'ils font des images. L'une des difficultés dans ce cas-là précisément, c'est qu'il faut toujours avoir au fond un commentaire de ce que les gens font lorsqu'ils font des images. C'est pour ça que je m'intéresse pas dans ce livre aux images des grottes ornées, aux images de la préhistoire, parce que en fait on peut les analyser d'un point de vue formel, on peut les analyser d'un point de vue stylistique, de leur variation stylistique, mais on sait pas très bien ce qu'elles signifient. Mais en revanche, toutes les autres images, au fond, on a des informations sur ce qu'elles sont, et on arrive à le pénétrer. C'est pas un mystère insondable.
Ben merci beaucoup Philippe Descola. Je rappelle que votre livre vient juste de sortir, que c'est un livre avec des images et qu'il s'intitule « Les formes du visible » et qu'il est publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.
Clabousse
C'est avec l'avalanche de Arthur H. que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore Philippe Descola. Une pensée pour la famille de Jean-Paul Belmondo. Vous pourrez entendre sa voix au micro d'Augustin Trapenard dans Boomerang demain matin. C'était le 7 novembre 2016. Merci à Céline Villegas, Iris Vertanissian, Elodie Royer. Merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux et à Lilian Alloum qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission qui était enregistrée à la technique par Tiffany Battistel.